Christ est ressuscité. Il y a 4 ou 5 ans, c'était à Pomerol, où il y a les sessions de œcuménique de la Transfiguration. On m'avait demandé un exposé un petit peu dans ce registre, et je ne sais plus exactement l'intitulé, ça n'a pas d'importance. Et donc, j'avais fait déjà à ce moment-là une sorte d'état des lieux, de diagnostic, avec, ma foi, tous les problèmes tels qu'ils semblent se présenter aujourd'hui, maintenant, au monde, à la planète, à l'humanité. Et il y avait là un jeune que tu connais bien, catholique, Thomas, qui était à ton ordination, je crois, et qui à la fin me dit, écoutez, Père, si on vous écoute, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se suicide. Ça m'a impressionné. Ça m'a bousculé. Je me dis, flûte, tu vas peut-être un peu fort, ma foi. Bon, mais lorsque j'ai reçu la proposition de venir ici, que je vois le thème, je me suis dit, tiens, les choses ont un peu évolué, parce que finalement, le thème que vous avez imaginé, bon, c'était un peu ça déjà, vous l'avez traité il y a 4 ou 5 thèmes différemment, mais enfin, fondamentalement, que faire aujourd'hui face à l'évolution comme elle se présente? Ça, c'est le premier point. Deuxième, ce matin, lorsque le Père Christophe, je ne le savais pas, m'avait dit hier, bon, nous avons une petite célébration concoctée à notre manière, mais quand il m'a dit, voilà, nous allons lire principalement l'Apocalypse, j'ai été, mais profondément ému et secoué, parce que hier, dans le train, en venant ici, j'avais pris mon exemplaire de travail. Et pour la je donne ma parole, depuis la première fois, depuis plus de 20 ans, j'ai décidé hier dans le train de lire l'Apocalypse. J'aurais pu aussi lire autre chose. Et du coup, ce matin, ça m'a fait quelque chose, je me dis, vraiment, voilà, c'est déjà un élément de ce que nous sommes ensemble dans l'esprit, et qu'au même moment, ben, l'esprit nous inspire, je crois, un petit peu de la même manière. C'est déjà une dimension de l'Église. C'est même une dimension centrale de l'Église. J'ai eu d'autres expériences de ce type d'ailleurs avant, mais enfin bon, laissons. Alors, quel repère dans le monde globalisé? On propose deux axes, évidemment, je ne sais pas faire autrement, de par ma formation. D'une part, propose revenir un peu sur, appelons ça l'état des lieux, ou pour parler dans le registre que vous suggérez, faisons un audit, n'est-ce pas, de la situation, avec des outils humains, c'est-à-dire les outils scientifiques, rationnels, et puis avec des outils que j'oserais appeler divino-humains, c'est-à-dire avec nos référents spirituels, avec notre foi. Ça sera pour premier point. Second point, eh bien, comment, à partir de cette audit, de ce constat, comment témoigner, ou de quoi témoigner, de qui témoigner, principalement autour de la question, comme axe de méditation et d'avancée, aujourd'hui, qui est mon prochain? Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'état des lieux, il ne s'agit pas de faire un catalogue de tous les progrès que nous connaissons, mais d'en citer quelques-uns et pour souligner le tournant, l'évolution, l'accélération incontestable qu'il représente. On ne sait pas exactement quel était l'état de la science il y a plusieurs millénaires dans l'Égypte, chez les Incas. Moi, je suis frappé par certaines lectures que j'ai faites en la matière, mais est-ce qu'il y a eu l'Atlantide? Oui, non, enfin j'en sais rien. Mais objectivement, là, dans ce dernier siècle, et plus particulièrement dans le dernier demi-siècle qui vient de s'écouler, je dirais même depuis 15 ou 20 ans, nous assistons à une accélération incontestable de la connaissance, ou je dirais aussi de la compréhension, aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Et je pense que ça fait partie, au fond, ce sera le premier élément que je proposerai comme composante, en fin de compte, de la globalisation, dans une lecture, comme disait Lydie ce matin, dans une lecture occidentale des choses, car il est bien évident que ce n'est pas tout le monde, toutes les civilisations, qui sont en mesure de faire cette lecture. Mais nous pouvons la faire, et nous la faisons, et c'est plus qu'une lecture. C'est véritablement une appréhension, une compréhension appréhension. En ce qui concerne l'infiniment grand, bon, tout simplement, le fait que nous, je veux dire, que nous contrôlions la communication de la planète, je n'irai pas dans le cosmos, encore que la conquête du cosmos déjà amorce quelque chose, mais restons-en pour l'instant à notre Terre. Mais surtout, les dernières avancées dans l'infiniment petit, c'est-à-dire la combinaison à travers l'électronique de ce qu'on appelle aujourd'hui les nanotechnologies et les biotechnologies qui nous conduisent tout simplement non seulement à la compréhension du mécanisme de la vie, mais au contrôle cellulaire, biologique de la vie, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer il y a, je pense, à peine quelques dizaines d'années. Alors même si la perspective du clonage reproductif semble encore ne pas être tout à fait au point et qu'on essaye de le contrôler et qu'on nous dit qu'il n'y aura pas de clonage reproductif, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, peut-être ça fait partie de mon pessimisme, mais vous appellerez réalisme, je crois qu'il s'est fait, qu'il se fera, même si ce n'est déjà fait. À partir du moment où nous en avons déjà les perspectives, on va balbutier, on aura quelques échecs de parcours, mais or, le clonage, peut-être c'est une question de génération, le clonage, et puis donc la robotisation combinant, si je ne me trompe, les neurones, c'est-à-dire le vivant, et les cellules, pas les cellules, les atomes, n'est-ce pas, l'électronique, les puces électroniques et tout, et nous sommes déjà sur le point de fabriquer des robots non seulement intelligents, mais des robots qui auraient une sorte de vie, et qui auraient une sorte d'autonomie de vie, de décision, c'est peut-être encore un tout petit peu, mais tu sais, en Russie, je crois, j'ai cru entendre qu'ils ont déjà des avancées très importantes en la matière. Encore une fois, je ne veux pas peut-être anticiper trop vite, mais en tout cas, nous l'avons un peu déjà en perspective. Dans tous les cas, il se passe quoi? Il se passe que nous prenons le contrôle de la vie, qui pour nous est la création, qui est le cœur même de la vie, en particulier de la vie humaine. Et pour revenir à la, disons, aux biotechnologies, sans porter aucun jugement à travers diverses techniques que l'on peut, ceci est bonne, ceci est moins bonne, le problème n'est pas là, sans aucun moralisme, ce qui se présente à nous, c'est la possibilité de progressivement de nous reproduire sans la rencontre, qui est celle de l'altérité, qui est celle justement de la différence et qui crée un être nouveau. La perspective des manipulations biotechnologiques, biologiques, bioéthiques, et donc notamment en ce qui concerne à travers le clonage, c'est une possibilité de reproduction à l'identique et sans donc la rencontre et sans finalement la dimension fondamentalement personnelle. Au fond, nous sommes, et là c'est la lecture spirituelle, notre lecture spirituelle, nous arrivons pratiquement à un premier point, c'est pas le point ultime, car je crois que de ce point de vue-là, il y aura d'autres étapes encore qui sont franchies, mais on ferme une certaine boucle, vous serez comme des dieux. Et à certains égards, en ce qui concerne la reproduction humaine, nous sommes en train de goûter de ce point de vue-là, et on se contrôle, on s'auto-contrôle. Et alors c'est très amusant parce que il s'agit d'un contrôle dominateur, il s'agit du contrôle de la possession, de la prise de possession, qui est la chute même, n'est-ce pas, qui est le péché même. Alors d'un côté on en prend le contrôle et en même temps on a l'impression parfois qu'on perd le contrôle, car cela concerne aussi les mécanismes planétaires. Je parlerai plus de planétarisation que de globalisation. Ça concerne les mécanismes planétaires, sociaux, économiques, scientifiques, et on a l'impression, parce qu'on nous le dit, que bien souvent, il y a bien des égards, il y a des choses qu'on ne peut plus, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire, en matière notamment économique et sociale. Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Alors, on a l'impression d'être des impuissants, et d'être nous-mêmes déjà des robots devenus les sujets d'une machine infernale qui tourne toute seule. Je n'avance rien, je crois que ce sont des choses que l'on peut lire et percevoir à travers divers écrits. Que dire de toute la dimension écologique, n'est-ce pas, que je ne détaille pas, que je ne décris pas, mais que, et qui est récente. À ce point-là, elle est récente. Certains le pressentaient depuis quelque temps, mais là, elle nous éclate à la figure. C'est clair, c'est plus la peine de raconter l'histoire. Et dans ce domaine tout particulièrement, est-ce que nous pouvons quelque chose? Alors quelques mots de la globalisation, puisque c'est le titre malgré tout général de la rencontre. On voudrait ici donc évoquer les autres dimensions classiques de la notion de globalisation, celle qui nous conduit simplement à la vision planétaire des choses, la globalisation de la communication, de toutes les communications, que ce soit les communications électroniques, n'est-ce pas, qui nous donnent une perception en temps réel et immédiat, que ce soit les communications des êtres humains avec tous les moyens de transport. Et puis alors l'autre globalisation, d'ailleurs c'est celle enfin, qui l'accompagne, ou qui en est une des conséquences, et c'est celle qui a donné lieu d'ailleurs, je crois, finalement à la notion de globalisation, c'est la globalisation économique et sociale, et surtout économique. Alors, je ne me lancerai pas sur le terrain de l'économie, il y a ici personne plus compétente que moi, mais c'est simplement pour pouvoir placer l'un des slogans que vous avez mis comme sous-titre, et sans doute le plus provocant de toute la série, « Travailler plus pour gagner plus ». Je dois dire que je ne sais pas comment, si d'ailleurs si vous l'avez prévu, c'est bien parce que c'est devenu obsédant. C'est devenu, depuis quelques mois, mais c'est devenu un slogan, mais obsédant. Il n'y a pas sinon deux jours, deux semaines, sans que d'une manière ou d'une autre, les uns ou les autres utilisent la formule, que ce soit dans un sens positif, que ce soit dans un sens négatif, que ce soit pour faire appel à certaines quêtes ou à certains dons. Même la FTC de Saint-Serge a joué un petit peu sur la formule aussi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit là, ça devient grave. Une véritable pollution. C'est une formule qui est une véritable pollution psychologique et spirituelle. Je le crois profondément, et tout simplement parce que cet objectif, se donner ça comme objectif, ben c'est tout simplement le culte définitif de Mammon. C'est pas difficile. Que ce soit en travaillant ou sans travailler, mais pour gagner plus, comme seule idée, comme seule perspective, comme seul objectif de gagner plus, mais c'est Mammon. Et c'est parce que... Mais oui. Et c'est parce que justement, c'est Mammon que peut-être il y a une telle fascination et qu'il y a un tel saisissement, n'est-ce pas, qui est quand même extraordinaire. Or, mes amis, dans l'Évangile, il n'y a qu'une seule opposition radicale, une seule. Tout le monde le sait, mais on ne l'y pense peut-être pas toujours. C'est Dieu et Mammon. Tout le reste était dans un autre registre. Tout ce qui concerne les relations humaines, nous sommes dans le registre de la création à laquelle Dieu fait appel et qui, bon, mais il y a une opposition. Il y a une incompatibilité entre Dieu et Mammon, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous dit le Christ. Par conséquent, et je m'arrêterai là parce que pour échauffer un petit peu, mais cette formule, simplement pour bien dire que ce n'est pas de la politique, hein. Ça s'inscrit justement dans, je crois, l'une des dimensions de la globalisation, car c'est un phénomène, et d'ailleurs si on nous propose ça, c'est parce que, semble-t-il, tout le monde fait ça et qu'on ne peut pas faire autrement. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Triomphe, que j'appellerai ici, capitalistique. Ça ne parle pas simplement le mécanisme du capitalisme, parce que je ne veux pas tout de suite rentrer sur l'analyse du capitalisme, mais c'est un triomphe capitalistique, comme l'avaient prévu d'autres, comme par exemple Karl Marx, qui avait prévu l'accumulation du capital pour l'accumulation. Il y a plusieurs analyses dans Marx, il y a plusieurs éléments, mais il y a celle-là. Et j'aime à dire, en milieu universitaire, vous savez que quand un auteur n'est plus de ce monde, et mais qu'on l'utilise, qu'on le chante, qu'on le lit, je dis, Marx ne se retourne pas dans sa tombe, il danse la polka, parce que, jamais il n'aurait pas imaginé que les choses se réalisent, se passent comme elles sont en train de se passer. Et que ce triomphe capitalistique de l'instant vient évidemment heurter ou en s'entrechoquer avec ce qui nous préoccupe au premier chef, c'est tout simplement la dignité de l'être humain. La dignité de l'être humain, plus généralement évoquée à travers la formule, la doctrine, le projet, l'idéologie des droits de l'homme, je crois qu'il faut en dire quelques mots, et même un petit peu plus. Mais avant que de développer ou de parler des droits de l'homme, je reviendrai sur le mot globalisation lui-même. Car si, encore une fois, il y a raison de dire ce matin que c'est une approche occidentale, je voudrais ajouter qu'il y a aussi des mots français. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a des hésitations. Globalisation, mondialisation, il n'y a pas beaucoup de langues à ma connaissance où on peut s'utiliser les deux mots. En français, nous l'avons. Et derrière ces deux mots en français, se profilent deux perspectives différentes, et plus particulièrement concernant les droits de l'homme. Je m'explique. La mondialisation, je ne dis pas la globale, la mondialisation, c'est cette, à la fois cette vision, cette perception, cette réalité d'une communication planétaire, d'une vision planétaire, d'une vision dans une intégration des différences. La mondialisation, c'est dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont nous allons fêter les 60 ans, incidemment, ce 2008, il y en a beaucoup. La mondialisation, c'est dans l'esprit de la Charte des Nations Unies. Or, l'esprit de la Charte des Nations Unies, c'est l'acceptation de tous dans leurs différences. Les deux premiers articles de 1948 sont « Tous les êtres humains naissent libres et égaux et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. » Je dis en passant, c'est la première fois qu'est consacrée ici la notion de dignité dans un texte de cette nature. C'est très important. Article 2, cette affirmation vaut, quel que soit, c'est tellement classique qu'on ne le dit jamais, quel que soit le sexe, la religion, la condition sociale, la race, etc., etc. La doctrine des droits de l'homme, telle que nous la pensons généralement, mais on ne conscientise pas jusqu'au bout, compte tenu de ce qui est en train de se passer, la doctrine des droits de l'homme est une doctrine d'intégration, de cohabitation des différences, des visages humains, des personnes. Dire que tout être humain est digne, c'est qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit croyant comme ci ou comme ça. Mais ce qui vaut l'universalité, c'est l'affirmation de la dignité, je répète, dans la différence. Alors que ça, c'est la mondialisation. Et c'est comme ça qu'au début, la France a envisagé, sans le conscientiser, par culture. C'est comme ça que la France, au début, a imaginé ou vécu la mondialisation, la globalisation. C'est tout le contraire. La globalisation, c'est un nivellement. C'est le passage par le laminoir. C'est mettre tout le monde pareil. Le global, le droit global, dont rêve l'OMC et d'autres rêvent d'un droit global. Et un droit global, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il n'y aura plus aucune affirmation possible de l'identité et de la différence. C'est la négation de l'identité personnelle. Et le mécanisme de la globalisation tel qu'il s'opère aujourd'hui est une négation en perspective de... Il va y avoir des réactions, mais je veux dire, c'est une des dimensions de la globalisation, celle qui est dominée par les mécanismes économiques et financiers. Et à telle enseigne que c'est bien lié à la globalisation et aux impératifs de cette globalisation, qui évidemment emporte tous les problèmes de géopolitique au sens classique du terme, avec les composants de la géopolitique que sont les hydrocarbures, les matières premières en général, etc. et tout. Bref, et au nom de cette géopolitique, qu'est-ce que nous allons faire avec les droits de l'homme ? On les instrumentalise au gré des besoins de la géopolitique. Personne ne pourra dire le contraire. Et ce n'est pas moi qui ai inventé la formule « droit de l'hommisme ». Droit de l'hommisme. Droit de l'hommisme devient une doctrine d'instrumentalisation. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On évoque les droits de l'homme ? Allez, on le fait. Là-bas, non, là-bas, on ne le fait pas, c'est trop gênant. Ou on le fait du bout des doigts, comme en Chine, et puis évidemment, dès que se présentent les contrats, hop, c'est terminé. Ah, par contre. Alors, par contre, en Serbie, où il n'y a pas directement ni de pétrole, ni d'hydrocarbures, mais que c'est un espace géopolitique qu'il faut contrôler. Alors là, oui. Donc, il faut prendre le contrôle. Alors, eh bien, on va bombarder, bien comme il faut, au nom des droits de l'homme. Et d'autres exemples que vous connaissez aussi bien que moi. Pas le temps de faire toute la série. On va dire que, encore une chose, c'est pas simple pour nous, orthodoxe, non plus la question des droits de l'homme. Elle n'est pas simple parce que, en fait, c'est une doctrine qui s'est développée dans l'espace occidental. C'est une doctrine qui est helléno-chrétienne occidentale. Helléno, c'est-à-dire Platon, Aristote, où posé déjà le droit naturel sur la Hébraïque, mais repris largement par saint Augustin, puis plus tard relayé et développé par saint Thomas, et ce n'est pas tout à fait au hasard, ce n'est pas secondaire, ce n'est pas à la marge, c'est une pensée, je ne conteste pas tant s'en faut, puisque j'enseigne les droits, mais il faut se rendre compte que la doctrine des droits de l'homme, qui vient de finalement la doctrine du droit naturel que nous défendrons, mais qui a été développé dans la continuité et dans l'espace helléno-occidental, pas dans le byzantinisme, pas dans l'orthodoxie. Et je dis simplement, entre parenthèses, que ce n'est pas un hasard si, en définitive, la démocratie, avec tout ce que cela signifie, la démocratie telle que nous la comprenons aujourd'hui, avec l'affirmation du suffrage de tout citoyen, avec l'affirmation de la souveraineté, tout ça, c'est un phénomène occidental qui est lié ou qui nous vient de l'affirmation du droit naturel. L'orthodoxie, dans l'espace orthodoxe, il n'y a pas de tradition du droit naturel, il n'y a pas. Et c'est la raison pour laquelle l'orthodoxie, disons spontanément, si ce n'est que sous certaines influences contemporaines, mais historiquement, vous le savez bien, c'est la raison pour laquelle l'orthodoxie n'a pas développé ni la démocratie, ni fondamentalement le droit, le respect du droit, la primauté du droit, les droits de l'homme. Donc, nous, orthodoxes ici, c'est important, parce que ma conclusion, et si je vous dis ça, c'est parce que ça fait un moment que je réfléchis sur la question, que je suis issu de la fac française où j'ai appris les droits de l'homme et où j'ai aimé, mais après je me suis posé des questions. Je me dis, mais comment se fait-il qu'il y a quand même ce clivage ? Et clivage, il y a. Alors une piste, sans élément plus concret, mais une piste pour nous de méditation, de réflexion et de faire comment être justement continuer à porter les droits de l'homme avec notre culture, avec notre héritage spécifique dans la société où nous sommes et pour l'humanité finalement, sans vanité. Dans des conversations privées, ça m'est arrivé de dire que je pouvais comprendre, mais je ne vais pas le développer tout de suite, que je pouvais comprendre certaines réactions en milieu orthodoxe, que ce soit grec ou russe, face à certaines évolutions des droits de l'homme, certaines évolutions des droits de l'homme, telles qu'elles apparaissent aujourd'hui dans la charte de l'Union européenne, où sont affirmés comme des droits soi-disant naturels, toute une série de droits qui pour nous ne peuvent pas être considérés comme des droits naturels. Je ne prendrai pas d'exemple, tout le monde devinera tout ça, si vous voulez tout à l'heure, éventuellement, pour ne pas créer de... Alors, voilà. Maintenant, comment témoigner? Il disait que ce serait autour de, comme axe central de réflexion, autour de la question qui est aujourd'hui mon prochain. Le contexte de l'évangile, Israël, Judée, Palestine, contexte de, pardonnez-moi l'anachronisme, mais je peux me permettre, se développe dans un espace en superficie de combien? Ou en diamètre, peu importe. 200, 300 km de diamètre, un petit peu plus sur la mer, même pas. Si nous en tenons strictement à tout le livre de la Bible, sauf quelques références évidemment à Babylone ou autre, mais sinon, si on s'en tient strictement au livre de la Bible et pour nous au Nouveau Testament, on est où? On est sur un espace, encore une fois, de 200 km de diamètre. Pratiquement, tout le Nouveau Testament ne compte pas à 250, 300 si tu veux, mais pas au-delà. En gros, en termes modernes, en termes actuels, on peut presque dire que tout le monde se connaissait.
La Belgique.
Non, mais c'est vrai. Ou la Finlande, comme on dit toujours qu'en Finlande, tout le monde se connaît. En gros, tout le monde se connaissait. Et lorsque nous prions dans nos litanies pour les défunts, ici et maintenant, moi j'ai supprimé les ici, parce que je n'ai pas de ici. Quand dans nos litanies, n'est-ce pas, dans nos éthénies, nous prions pour les défunts qui reposent en paix. Ici, c'était où ici? C'était où? Sous l'église ou à côté de l'église? Là, tout de suite. Aujourd'hui, c'est où? Moi, j'ai supprimé les ici, en russe et en slavon, en français. Bon, c'est simplement pour dire. Et que tout le contexte de l'évangile, une fois posé l'espace, est un contexte de rencontre personnelle. C'est un livre de rencontres personnelles, dont le Samaritain, ou la parabole du bon Samaritain, est un des, je veux dire, des pivots. Mais nous sommes dans la période pascale, que nous connaissons bien. Qu'est-ce qui se passe à la résurrection? Ce sont toutes des rencontres personnelles, et avant cela, toutes les guérisons, sauf peut-être la multiplication des pains, mais fondamentalement, ça c'est un miracle, n'est-ce pas, inouï, avec une préfiguration, mais tout ce qui est guérison concerne des rencontres personnelles, elles sont toutes des rencontres personnelles, avec plus la formule « ta foi t'a guéri », ou bien la foi de l'autre d'ailleurs, t'a sauvé, comme par exemple le centurion qui intercède, ou le père pour les filles, c'est tout à fait émouvant, bon, mais c'est dans le contexte de rencontre personnelle. Et le bon samaritain, que l'on pense que le bon samaritain, ça doit être moi, toi, ou c'est le Christ lui-même, c'est l'homme qui l'a rencontré. Qu'est-ce qu'on fait dans la globalisation? Qu'est-ce qu'on fait dans la planétarisation? Lorsque nous sommes assis, qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, mais enfin vous savez bien que culturellement, psychologiquement, lorsque nous sommes avec la culture de l'écran, c'est pas télévisé ou maintenant de l'ordinateur, et que dans l'instant nous avons le cyclone de Myanmar, nous avons le tremblement de terre chinois, nous avons les épidémies pas dans le sud, nous avons les famines, etc. et tout, et c'est là comme ça que ça tourne, c'est pas. Et on voit les affamés, on voit les estropiés par centaines, par milliers à l'autre bout de la planète. Je vous dis ça parce que personnellement, je vis ça douloureusement depuis que c'est comme ça. Moi ça fait partie de, je vous livre, ma réaction. Et bien des gens, les chrétiens, il y a juste titre, n'est-ce pas, envoient des chèques de soutien, sauf le nom du tsunami. Peu importe comment c'est traité après, c'est une autre question. Mais nous sommes contraint de voir cela, et avec notre foi, on ne peut pas rester insensible totalement. On peut faire des choix, selon nos origines, l'aide aux croyants de Russie, par exemple, ça se comprend. On peut faire des choix, et chacun de nous peut envoyer, mais on ne peut pas fondamentalement prendre sur l'épaule la planète. Or, c'est ce qui nous... Et c'est ça la nouvelle donnée. C'est une donnée, elle est très récente. Elle a 50 ans, et elle s'accélère, elle se développe. C'est une donnée de la globalisation qui nous heurte, qui nous bouscule, je l'estime, qui nous bouscule spirituellement. Alors, bien sûr, face à cela, il y a des solidarités. Elles ont leur place. Mais ce sont des solidarités, d'ailleurs, plus que des fraternités. Ça, c'est donc le... Ça faisait encore partie du constat, mais déjà dans une perspective qui nous concerne plus directement. Et c'est ici que je voudrais alors revenir sur l'autre thème suggéré, dont on peut le faire au début, je préfère ici, la décroissance. Comme étant peut-être l'un des témoignages, l'une des pistes. Nouveau témoignage pour nous, serait-ce au fond une perspective d'un altermondialisme spécifiquement chrétien. Je vais d'abord dire et rappeler que le thème n'est pas nouveau. L'idée d'une limitation de la croissance n'est pas nouvelle. Peut-être qu'elle remonte même encore au-delà, au 19e, mais en tout cas, dans ma génération, je pense au Club de Rome, je pense que Michel et d'autres le savent, s'en souviennent. Maintenant, on en parle moins. Club de Rome, créé en 1968, par des représentants un petit peu de toutes les spécialités, scientifiques, économistes, politistes, etc. Et, tout, et dont l'idée était la croissance zéro. Je crois que Solzhenitsyn, d'ailleurs, l'a repris peu de temps après, dans ses ouvrages, dans les années 70, si je me souviens bien. C'était quand il est arrivé aux États-Unis. Et j'ai été sensible, oui, j'étais déjà sensible, croissance zéro. Bon. Aujourd'hui, compte tenu de l'accélération, on nous propose une décroissance. Soit. J'ai réfléchi, j'y pense, il y a depuis quelque temps, l'idée posée à l'état brut, se fixer pour objectif une croissance zéro ou une décroissance me paraît être une utopie. À l'état brut, telle qu'elle se présente, me paraît être une utopie pour une raison simple. Mais là, c'est peut-être le débat. Zéro ou décroissance, c'est le contraire du mouvement. Or, la vie est nécessairement un mouvement. La vie est nécessairement un souffle, la vie est nécessairement une respiration. D'où la formule française, et c'est elle d'ailleurs qui m'a fait réfléchir, parce que je suis arrivé à le vérifier de ma propre expérience, moi ou celle qui m'entoure, les gens qui m'entourent, que celui qui n'avance pas recule. Et j'y pense non seulement en termes économiques et sociaux, mais le progrès en termes spirituels. Et c'est justement parce que je me suis fait l'expérience spirituelle que si tu n'avances pas, si tu penses pouvoir comme ça stagner, tu es arrivé à un niveau de tard et tout, impossible. Et tu ne restes pas à ton niveau. Si tu n'avances pas, si tu ne progresses pas, si tu n'as pas la dynamique de la vie, y compris sur le plan spirituel, tu ne resteras pas au niveau auquel tu étais. Tu tomberas. Il y a une dynamique physique, psychologique, il y a une dynamique de la vie. Et donc rien qu'à partir de cet événement, de ce phénomène-là, encore une fois, comme ça, à l'état brut, l'idée de croissance zéro, décroissance, me paraît être non seulement une utopie, mais une mauvaise piste. Attention, nous allons préciser. Je disais que la vie est un mouvement, elle est une respiration. Elle est une respiration qui s'exprime, alors là, tel que dans le monde que nous percevons, une respiration qui s'exprime toute seule, dans des cycles collectifs. Les économistes connaissent divers cycles, encore une fois, d'autres en peuvent en parler, Kondratiev ou d'autres, mais nous avons tout simplement aussi, dans la Bible, nous avons des cycles. Alors, qu'il soit symbolique, pas symbolique, 7, 40, mais nous avons le principe de cycle. Et l'expérience historique le montre qu'en effet, la vie était une courbe. Alors, par rapport à cela, je dirais qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de se fixer pour objectif de travailler à une décroissance ? Écoutez, en toute simplicité, je crois qu'elle va venir toute seule. Toute seule. D'ailleurs, elle a commencé, si je me trompe. Parce que tout ce qui est récession, dépression, etc. et tout, ça va être obligatoirement une forme de décroissance avec les conséquences naturelles qui l'accompagnent, c'est-à-dire des victimes, des morts, par centaines, par milliers, et qui font partie de la vie planétaire de toujours. La nature connaît sa propre auto-limitation, qui est tout simplement la sélection naturelle. Or, ce qu'il y a, c'est que nous contrarions la sélection naturelle. Et l'une des causes de la situation actuelle, c'est que nous contrarions depuis plus de 50 ans, ou siècles, enfin, ça dépend de quel niveau on se place, nous contrarions la sélection naturelle. Au nom de l'humain. C'est bien connu. C'est bien connu que les explosions démographiques sont entre autres liées au fait tout simplement que nous limitons la mortalité infantile. C'est incontournable. Alors quoi, on ne va plus limiter la mortalité infantile. Il y en a qui y pensent. Hein. Et oui. C'est ce que pensait d'ailleurs le Club de Rome. C'est pour ça qu'on ne parle plus trop du Club de Rome. Mais aussi toutes les certaines doctrines eugéniques. Et aux États-Unis et ailleurs, plein de doctrines eugéniques qui se développent autour de cette problématique. Mais nous ne pouvons pas, nous, nous arrêter à cela. Nous sommes les témoins du Christ. Nous avons deux pistes, peut-être. L'une des pistes, c'est l'auto-limitation. L'autre, parallèle, c'est des efforts, des tentatives de réorientation de la croissance, du travail, de la production. C'est ce qui se fait, Nietzsche le disait, en dehors, pour l'instant, du monde chrétien. Les mouvements intermondialistes, qui sont multiples, d'ailleurs, j'ai tiré l'autre jour sur Internet, il y en a 10 pages de, je veux dire, je ne sais plus, je n'ai même pas fait le compte, je n'ai pas exactement compté combien, enfin, de ce qui est considéré aujourd'hui comme des mouvements s'inscrivant dans l'altermondialisme. Et avec beaucoup de variantes idéologiques et politiques et tout, mais tout ont en point commun, en effet, cette problématique de quoi faire face à cet emballement, de la croissance, un emballement de la consommation. Auto-limitation, réorientation, c'est la métanoïa. Le premier sens de la métanoïa, c'est changement de direction. Le repentir, c'est le changement de direction. Et donc, c'est justement avec notre foi, toujours la même, que nous devons essayer, mais adapter, que nous devons essayer de travailler dans le monde tel qu'il évolue, et par conséquent, de revenir à nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, eh bien, c'est notre Dieu. Mais je préciserai ici, on parlait hier avec Père Christophe et d'autres, encore une fois, nous sommes dans la période pascale. Quel plaisir que de pouvoir chanter tous les jours, quelle joie que de pouvoir chanter tous les jours le tropère de la résurrection, de commencer toutes nos activités par le tropère de la résurrection, et ensuite d'ailleurs qui malheureusement tombe un peu, alors que tout dimanche, bon. Oui, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous dit l'apôtre. Et que nous sommes en Église les premiers témoins de la célébration du Christ qui s'apporte lui-même en sacrifice et qui nous permet de communier à son corps et en son sang, croix-résurrection. Et témoigner de la croix-résurrection aujourd'hui, non, c'est bien sûr nécessaire, il le faut, mais peut-être, le placer dans, après le rappel, après la réaffirmation, de ce que si nous pouvons parler de la croix, et si nous devons parler de la croix-résurrection, c'est parce que il s'agit d'un homme, il est unique dans l'histoire de l'humanité, il est unique dans l'histoire des cultures, il est unique dans l'histoire de toutes les religions, toutes civilisations confondues, l'affirmation de la divino-humanité. Or, justement, dans le contexte de la globalisation, je reste à la globalisation, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est aussi un contexte de syncrétisme. C'est un contexte de rencontres, et des rencontres que nous devons accepter, respecter, je le disais au début, c'est le propre même. Mais dans ce contexte de rencontres, tout en respectant, et là nous avons une charge particulière, on ne peut pas céder sur la divino-humanité du Christ. Parce que c'est d'elle que tout dépend. Si le Christ n'est pas simultanément Dieu et homme, tout le reste est terminé, et ce n'est même pas la peine de parler de résurrection. Car, et ce n'est pas que je revienne sur une théologie de l'incarnation en tant que telle, hein, mais ce n'est pas que ça n'est pas là, je ne crois pas. Mais je pense que c'est vrai. C'est vrai que tout part du fait que Dieu se fait homme. Et j'insiste sur un point, parce qu'on n'y pense pas toujours, enfin pardonnez-moi, c'est pour d'autres, hein. Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Nous pouvons être séduits par les spiritualités hébraïques, musulmanes, et pourquoi pas d'autres là-bas, en allant un petit peu plus loin, en Orient, et je crois que beaucoup, nombreux, sont ceux qui justement ne sont pas insensibles à divers aspects de spiritualité orientale ou extrême-orientale, soit. Mais nulle part nous avons l'affirmation du Dieu fait homme. Et c'est ça qui a coûté au premier millénaire des centaines et des milliers de souffrances et de martyrs, et à l'intérieur même de l'Église. Je ne vais pas revenir sur la liste de toutes les hérésies, mais toutes les hérésies ne portent quasiment que là-dessus, sur la problématique des deux natures du Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est contesté, ou qu'est-ce qui est ébranlé, qu'est-ce qui est secoué à travers des films, à travers des ouvrages, à travers tout ce que vous voulez autour de la personne de Jésus, c'est la mise en cause de quoi ? De sa divinité. Pas de son historicité. De sa divinité. Et donc, c'est cela qui me paraît très important, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé plus particulièrement que l'on mette l'icône de la Trinité et non pas de l'incarnation, mais celle-là et pas une autre. Car je suppose que nous savons tous que sur cette icône, qui est le Christ ? Où est le Christ ? Il y a un homme qui conteste, mais il est tout seul. Je le respecte. Non, je crois que c'est à peu près évident. C'est l'ange du milieu qui est le Christ. Comment ça se fait ? Pourquoi l'icône de la Trinité ne représente-t-elle pas au fond la Trinité selon notre approche dogmatique, avec la monarchie du Père et le Fils et l'Esprit, les deux mains du Père, selon la formule patristique bien connue ? Sans doute. Sans doute parce que justement en Christ, non seulement se manifeste, mais se réalise la rencontre, réconciliation totale et ultime entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et toute la création. Non seulement se manifeste, mais se réalise la rencontre, réconciliation. Et c'est ça que nous sommes toujours appelés à célébrer. Nous célébrons dans chaque Eucharistie aussi cette réconciliation. Mais cette réconciliation s'effectue dans la douleur. Cette réconciliation s'effectue dans un grondement, tremblement de terre. Lorsque dans un premier temps, je ne reviens pas d'abord sur les massacres des saints innocents au moment de la naissance du Christ, mais plus particulièrement sur la croix, lorsqu'il rend l'esprit, la terre tremble, le voile du temple se déchire, le soleil s'obscurcit, et il y a une secousse tellurique, cosmique. Mais quand il revient, la pierre est roulée, selon Matthieu, également dans un grondement. Ce ne sont pas des hommes qui ont fait rouler la pierre. Je posais tous la question, enfin bon. Dans un grondement, dans une secousse. Car, semble-t-il, et nous savons bien, mais toute naissance, toute renaissance, toute résurrection, tout enfantement s'effectue toujours dans la douleur. Et alors ce matin nous avons entendu l'Apocalypse. Je m'étais préparé aussi à évoquer le chapitre 24 de Matthieu. Là, pas de discussion, je veux dire, sur le fondement scriptural, l'authenticité canonique, n'est-ce pas, c'est indiscutable. Et tout cela, alors le chapitre 24 de Matthieu, bien c'est un chapitre qui annonce des douleurs comme il n'y en a jamais eu. Avec cette référence, pardonnez-moi, mais ça fait partie du livre. Même si notre foi n'est pas celle du livre, même si c'est la vie, soit. Mais justement, c'est quand même la bonne parole. Et cela fait partie, bien heureuse, je prends juste ça, bienheureuses les femmes qui n'auront pas à allaiter en ce jour-là. C'est ce qui me frappe le plus. Qui n'auront pas à allaiter ces jours-là. Qui ne seront pas enceintes. Qui n'attendent pas d'enfants. Et en même temps, tout cela sera le commencement des douleurs de quoi ? De l'enfantement. Quel enfantement ? Pas celui des femmes. De l'enfantement ultime, et qui rejoint sans doute le livre de l'Apocalypse que nous avons lu ce matin. Voilà, de ne pas perdre courage, pas essayons, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage, car s'il est vrai que nous sommes encore dans la tribulation, ne craignons rien, car le Seigneur a vaincu le prince de ce monde. Tribulation, ça l'a même évoqué ici, et dont le Seigneur nous dit que ces jours-là, si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Les élus, ou les justes, ça dépend aussi des traductions. Alors, je me dis que, essayons tout simplement, dans le contexte de la globalisation telle qu'elle se déroule, essayons d'être les justes.